Alors, pour essayer d'entrer dans le livre, j'avais plusieurs possibilités. Et vous voyez bien qu'elles se recoupent plus ou moins. On peut suivre l'histoire du monde depuis d'hypothétiques origines à travers les siècles jusqu'à l'an 1000 et au-delà. C'est une première façon d'aborder l'histoire. C'est le premier document que vous avez dans les trois derniers de votre livret, l'histoire d'Israël. On peut aussi se dire, on peut suivre les livres bibliques. On peut ouvrir la Bible et suivre. Alors c'est sympa parce qu'au début, ça commence pareil. Après, ça se complique. C'est le deuxième document que vous avez qui s'appelle l'ordre des livres. On peut aussi se dire, on part du moment où on a commencé à écrire. Mais là, vous voyez bien qu'on ne sait plus du tout quand partir, puisque est-ce qu'il faut partir du prophète Amos en 740 ou bien du moment en exil où on rédige le Pentateuque, la Torah. Donc, j'ai choisi les trois à la fois. Je vous propose en gros de suivre quand même le déroulé d'une histoire, d'une hypothétique histoire du monde, et de regarder à chaque fois, évidemment, qu'est-ce qui a été écrit à cette époque ? Rien pendant longtemps, mais quels sont les livres bibliques qui en disent quelque chose ? Ça marche ? Voilà. Donc, le premier temps, vous verrez qu'il y a plusieurs temps, et je vais essayer cet après-midi d'aller jusqu'à l'exil et au retour. Et je m'arrêterai à ce retour d'exil, parce que le 8 janvier, quand nous continuerons sur le Nouveau Testament, je veux repartir de l'exil pour mettre en place le judaïsme dans lequel, qui se fixe dans les cinq derniers siècles et dans lequel Jésus vit. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez être un peu frustrés. On va s'arrêter autour de 500. On a quand même des choses à dire. Alors, partons du commencement. Évidemment, personne n'a jamais assisté à la création du monde, ni à beaucoup de choses de cette époque. Et donc, je m'appuie sur, pour en parler, sur le livre de la Genèse et sur ces mythes dont j'ai dit tout à l'heure que c'était des récits qui essayent de comprendre depuis l'origine pour expliquer le présent, et ces récits de commencement. Et je précise encore une chose, les récits, notamment de la Genèse, qui essayent donc de dire à la source, au fond, l'idée, c'est quel est à la source le projet de Dieu ? Le mythe, il projette dans le passé et dans l'histoire ce qui est structurel actuellement. Voilà. Ce qui est structurel, la façon dont le monde fonctionne actuellement selon le projet de Dieu, on va le raconter en le projetant dans un déroulé historique qui part des origines. Je m'explique. Au fond, le récit de la Genèse, les récits de la Genèse, et d'abord ce grand récit liturgique de la création en 7 jours, qu'est-ce qu'il décrit ? Il décrit la semaine juive sabbatique où on travaille, on crée, l'homme travaille sur le monde que Dieu lui a confié et le 7e jour, il se repose pour louer. En fait, le récit fonde, explique, justifie dans un récit de la création et des origines la pratique juive du sabbat qui est en train de se mettre en place pendant l'exil. Ça marche ? Voilà. Donc, au fond, ce qui est à l'origine n'est pas vraiment à l'origine. Ce qui est à l'origine est ce qui est essentiel aujourd'hui. Ce qu'on met le plus en, ce qui est présenté comme le plus ancien, c'est le plus essentiel. Et c'est au fond, je le dis là en termes un peu violents, les récits de commencement sont des récits qui anticipent sur la fin, qui annoncent la fin étant le but final. Ce qu'on dit ce qui est essentiel, c'est ce qui va nous conduire au but final. Je dis ça parce que la tradition catholique, depuis Augustin, et ce n'est pas catholique, chrétienne, pas du tout catholique. La tradition chrétienne, depuis Augustin, et c'est bien avant déjà, et c'est surtout déjà dans certaines traditions juives, notamment chez les gens de Qumran, a mis à l'origine le péché de l'homme, le refus de l'homme. La proposition de Dieu, qui bien sûr est antérieure, enfin, quand même, a mis à l'origine de tout le péché de l'homme en parlant de péché originel. Or, même si ça est présent, ça, très fort, dans certaines traditions juives, hein, ce n'est pas Augustin qui l'a inventé, les gens du Qumran, c'est l'homme est mauvais depuis l'origine, et heureusement qu'il y a la bonté de Dieu qui permet à quelques-uns de te sauver. Bon. Même si on peut parler cela, quand on ouvre la Bible, elle dit le contraire. Si vous ouvrez la Bible, c'est au commencement, Dieu créa et Dieu vit que cela était bon. Et c'est martelé. Et Dieu vit que cela était bon, et pour l'humanité, et Dieu vit que cela était bon, très bon. Bon et beau, d'un mot tov en hébreu qui dit à la fois la bonté et la beauté, si vous voulez. Certains traduisent Dieu vit que cela était beau, peu importe. Et Dieu bénit. Et Dieu bénit. Il bénit la création et il bénit surtout l'homme et la femme. Donc, le premier mot de la Bible, ce qui est originel dans la Bible, et je venais de vous dire que ce qu'on met au début, c'est ce qui est le plus important, donc l'essentiel, structurellement, pour la foi juive et pour la foi chrétienne qui s'ensuit, c'est à l'origine et de toujours à toujours, Dieu veut que ce soit bon, et c'est la bénédiction de Dieu sur ce monde. Ça, c'est fondamental pour toute démarche théologique, parce que la réflexion théologique chrétienne a souvent considéré que oui, Dieu a voulu que ce soit bon, mais ça s'est cassé la figure, alors il a fallu qu'ensuite il vienne à la rescousse, etc. Et on oublie souvent, et c'est même dans certains textes du Nouveau Testament oublié, parce que les mentalités environnantes, on oublie souvent que la Bible ne considère jamais que ce monde est mauvais. Ce monde-ci n'est pas mauvais, il n'est pas condamné. Ça, c'est des visions dualistes du monde, contre lesquelles la Bible s'élève. C'est la vision manichéenne, on va dire. Il y a un monde mauvais et il faut s'en sortir pour aller. Le christianisme a souvent épousé cette version-là du monde, notamment avec l'idée dont je parlais ce matin, nous sommes en exil et nous marchons vers un autre monde. Non, ce monde-ci est bon et Dieu veut le bien de ce monde-ci. La lettre, l'évangile de Jean ne dira pas autre chose. Dieu a tant aimé le monde, pas le monde qu'il a rêvé, ce monde-ci. Il a envoyé son fils, etc. Et Dieu veut que ce monde-ci soit sauvé. Voilà, je martèle un peu ça parce que c'est essentiel. Parce que ça s'enseigne encore. Et ça s'enseigne encore dans des milieux, chez des jeunes, assez intellectuels. On leur commence par leur apprendre le péché originel. Ça me fait hurler. Non. À l'origine, il y a la bénédiction. D'ailleurs, j'ai écrit la bénédiction originelle. Il y a eu des livres qui sont appelés le pardon originel. Dans la Bible, c'est la bénédiction. Voilà, ça c'est le premier point qu'on apprend avec ces récits de la Genèse. Deuxième point, je ne fais que rappeler ce que j'ai dit ce matin, et je le reprends et le développe. J'ai montré que c'était un travail de reprise critique et polémique de traditions qui existent et de récits qui existent dans les mondes environnants. La reprise critique consiste à démythiser et à démystifier les récits contemporains, même si on reste dans le genre littéraire du mythe. Mais ça consiste à dire ce monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde peuplé de Dieu et d'êtres spirituels qui nous dominent. Il n'y a pas un monde sacré dont il faut avoir peur à tous les coins de rue parce qu'il y a comme dans les peuples environnants, et ce sera encore très présent dans les mythologie grecque, des dieux à l'affût qui sont là pour vous faire vous casser la figure, pour se venger, pour vous faire venger des autres. Il y a plein de dieux bons et méchants. Et les récits du commencement disent non, il n'y a qu'un seul Dieu unique qui crée par sa parole. Et le monde tout entier, terre, ciel, force du vent, force des astres, force de la pluie, etc., ce sont des créatures, comme vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur des créatures. En tout cas, pas pareil. D'accord ? Donc, il y a une espèce de désacralisation du monde qui est absolument essentielle. Et dans la tradition juive et la tradition chrétienne, et là encore, c'est toujours en tension, parce qu'il y a toujours le paganisme qui revient au galop, le paganisme qui dit « attention ». On l'a même dans la lettre aux Colossiens. Vous entendez partout dire « ne touche pas, ne prends pas, ne mange pas, attention ». C'est plein de Dieu partout. C'est plein de dangers partout. Non, ce monde est bon, il est créature, il est offert à l'homme, et voilà, l'homme est de plein pied dans ce monde. Et Dieu n'est pas sacré, il est saint, ce qui n'est pas pareil. Il est saint, ça veut dire que c'est lui qui donne la vie. Plénitude, la sainteté, c'est la plénitude de vie, ce n'est pas le sacré qu'on ne touche pas, puisque Dieu passe son temps à donner de toute façon et à s'avancer vers les hommes. Voilà les leçons que je retiens. Le monde est créature. Et d'une certaine façon, le monde est séparé de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui a donné son autonomie. C'est ça que nous disent les récits de la Genèse. Dieu donne son autonomie au monde puisqu'il le confie à l'être humain. Donc voilà, on vous confie le monde, débrouillez-vous. Maintenant, travaillez avec ça. Et n'allez pas sans arrêt dire que c'est Dieu qui est responsable, c'est vous les responsables. D'une certaine façon, les premiers récits de la Genèse sont puissamment en phase avec un certain discours écologique. Le monde vous est confié. Alors, vous est confié pourquoi ? Le premier récit est clair là-dessus. Pour que vous le dominiez en étant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu ne gère pas, ne crée pas et ne gère pas le monde par la violence. On n'est pas dans les récits assyriens ou babyloniens de guerre entre les dieux et de violence. On est dans un récit où Dieu crée par la parole et par la douceur. Et je vous fais remarquer que la première... Alors, je ne suis pas végétarienne du tout, mais ça ne fait rien. La première nourriture donnée aux hommes dans le récit de Genèse 1, c'est une nourriture végétale. Ils mangent les fruits des arbres et l'herbe des champs. Je ne défends aucun parti en disant ça, je constate. Ce qui veut dire qu'on est dans un monde de douceur, de relations non violentes. Or, et là je vais tout de suite aller un peu plus loin dans la Genèse, en sautant à travers les récits qui vont venir. Or, cette douceur, évidemment, elle va être mise en cause par la violence inhérente à l'homme. Vous allez me dire pourquoi Dieu a créé l'homme violent. On peut lui poser la question. L'homme est violent, c'est comme ça. L'homme est violent, l'homme est jaloux, l'homme veut être à la ressemblance de Dieu et mettre la main sur. Voilà. Au lieu de recevoir, il veut prendre. Et les récits de la Genèse vont raconter pendant quelques chapitres la montée de la violence humaine dans le monde. Chapitre 4, chapitre 3, c'est l'homme et la femme qui veulent mettre la main sur tout. Donc, on prend le fruit de l'arbre, parce que ce n'est pas parce que c'était un beau fruit ou une belle pomme, etc. C'est parce qu'on veut franchir la limite. Ce qui est dit, c'est qu'il y a une limite. Parce que ne serait-ce que pour vivre à deux ou à plusieurs, en vis-à-vis et dans le respect l'un des autres, il faut qu'il y ait une limite. Sinon, vous vous emparez du voisin et vous le mangez. Ou lui vous mange, peu importe. S'il n'y a pas de limite... Il n'y a pas de relation possible. Il n'y a pas de vie sociale possible. Et donc, le récit de la Genèse met en exergue, en scène, de façon dramatique, le fait que, voilà, il y a une limite et que l'homme et la femme, aussitôt, la transgressent. C'est la femme la première, évidemment. Puisqu'on est dans un monde patriarcal, on peut le lire avec une lecture féministe en disant parce que la femme était plus maligne que l'homme, comme vous voulez. Peu importe. Mais ce que je veux dire, il y a une limite et l'homme franchit la limite parce qu'il veut tout. Or, il ne peut pas tout avoir, sinon il détruit l'autre et il s'auto-détruit. Cette violence et cette volonté de tout avoir, elle est déployée dans les chapitres suivants. Dès qu'il y a deux frères, il y en avait certainement un peu plus que ça. Enfin, dès qu'il y a deux frères, il y en a un qui tue l'autre, uniquement par jalousie, il tue l'autre. Et ensuite, vous avez quelques chapitres de montée de violence, tellement qu'à un moment donné, Dieu veut reprendre ses billes et dit « ça suffit, il y en a assez de cette humanité violente ». On efface tout et on verra si on recommence après. Et c'est les récits, évidemment, hérités de récits mésopotamiens du déluge. Des récits du déluge, dans la Mésopotamie, il y en a. Dans la Mésopotamie, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous en parle maintenant. Je ne sais pas si je l'ai mis après, non. Il y a un grand texte qui, lui, remonte encore plus haut. Ça commence en 2000, pendant le 3e siècle. C'est traduit dans diverses langues de toute la région mésopotamienne. Et c'est un texte dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle « Le récit ou l'épopée de Gilgamesh ». C'est un roman d'initiation. Comment est-ce qu'un jeune devient un homme à travers des voyages et des rencontres ? Alors, il va rencontrer diverses bêtes, il va rencontrer la femme, il va rencontrer des dieux. Et il va rencontrer un déluge, parce qu'il y a des récits de déluge dans ces textes-là. Voilà. Il va y échapper, évidemment, parce qu'on finit par y échapper. Et je vous dis la fin de l'histoire, parce qu'on n'a que des morceaux, mais le dernier morceau, vous disent que Gilgamesh, après avoir été sauvé de tout ça, s'en va à la recherche de quoi ? De la plante d'immortalité, évidemment. Ce qu'il veut, c'est être immortel. Il n'y a pas de limite. Donc voilà, on est en Mésopotamie, hein, 2100 ou 200 avant Jésus-Christ. Donc il part en quête de la plante d'immortalité. Et il la trouve. Et il la trouve, et il la ramasse, et il la met dans son sac, et il revient. Et comme il est très fatigué, il se couche et il s'endort. Et voilà qu'il y a un serpent qui sort de la terre et qui vient manger la plante d'immortalité. C'est pour ça que le serpent est mu Et il se renouvelle. Chaque fois, à la nouvelle saison, il perd sa peau, il en a une autre. Mais Gilgamesh, il a perdu l'immortalité. Les hommes ne seront pas immortels, c'est écrit depuis des milliers d'années. Mais ils en rêvent toujours. Voilà ce que vous racontent ces récits. Alors, la montée de la violence, des déluges, et le fait que Dieu, c'est interprété dans le récit biblique, il y a plusieurs récits qui se recouvrent, c'est compliqué, comme Dieu veut effacer cette humanité violente. Mais évidemment, Dieu ne revient jamais sur son désir de lien avec l'humanité, sur sa quête de l'homme. Et donc, il y a un juste Noé qui va sauver. Et donc, vous avez les différents récits de l'arche avec des animaux qui rentrent en bloc, ou bien deux par deux, ou bien un par espèce, etc. Peu importe, vous connaissez tous les récits de Noé, même s'ils ne sont pas toujours clairs, puisqu'il y en a plusieurs qui sont mélangés. Ce n'est pas grave, c'est la Bible fait comme ça. Et au fond, finalement, après avoir supprimé une partie de l'humanité violente, eh ben, les eaux vont baisser et Dieu va refaire une alliance avec Noé. Or, cette alliance, elle dit très clairement quelque chose de la gestion de la violence, de cette violence omniprésente dans l'homme, telle que le monde juif, le monde biblique, le monde chrétien, peut la comprendre. Comment est-ce qu'on gère la violence ? L'alliance avec Noé, qui est souvent considérée comme une alliance non pas avec simplement le judaïsme, mais avec tous les peuples de la terre. On parle des lois noachiques, des lois qui valent pour tout le monde. C'est une gestion de la violence. Pour que l'humanité gère sa violence, il faut qu'elle l'extériorise, c'est bien connu. Si vous avez un gamin qui casse tout, il vaut mieux lui acheter un punching ball et l'envoyer tous les jours faire une heure de punching ball. Il faut extérioriser la violence. Du coup, puisque tu es violent, dit Dieu aux hommes, vous aurez le droit de chasser. Voilà. Vous pouvez tuer l'animal. Mais il y a un interdit, c'est de tuer l'homme. L'autre, tu ne le tueras pas. Voilà. Il est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc, fondement de cette gestion de la violence, on n'a pas le droit de tuer l'homme. Autorisation, par concession, parce qu'il faut bien que ça s'extériorise, de tuer l'animal. Mais, ça c'est le côté éthique, j'allais dire, de la loi, de la première loi mosaïque, le respect de l'autre homme. Mais il y a un côté rituel qui dit... Il y a une chose dont il faut se souvenir si on veut ne pas tuer l'autre homme, c'est que seul Dieu est maître de la vie. J'ai dit la sainteté de Dieu, c'est la plénitude de sa vie et du don permanent de la vie. Seul Dieu est maître de la vie. Comment s'en souvenir ? Eh bien, il y a une loi alimentaire, donc une loi rituelle, qui vient aussi sanctionner cette alliance avec son corrélat éthique. Eh bien, il y a un corrélat rituel alimentaire. Vous ne mangerez pas le sang de la bête. Vous ne mangerez pas le sang de la bête, donc la bête doit être saignée avant d'être mangée. Dieu accepte que vous mangez l'animal parce que vous êtes violent, vous avez besoin de viande. Mais vous ne mangerez pas le sang parce que le sang, c'est la vie. Et toujours, dans l'écriture, le sang, c'est la vie. Le sang représente la vie. Et que la vie appartient à Dieu. Vous saignez la bête. Éventuellement, le sang servira à asperger l'autel des sacrifices. Enfin, on montre que la vie remonte vers Dieu, est rendue à Dieu. Et donc, on a là, au fond... quelque chose qui, pour moi, est très éclairant sur plein de plans. On vous dit comment, fondamentalement, ces penseurs juifs ont dit que la violence pouvait être régulée. Il y a une loi absolue éthique. On ne touche pas à la vie de l'autre homme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un peuple qui a passé sa vie à tuer. Hein, mais voilà, la loi, c'est ça. On ne touche pas à l'autre homme. Et on va mémoriser le fait que ça, c'est la loi de Dieu par des règles extraordinairement concrètes qui touchent chaque moment du quotidien et donc, comme vous ne pouvez pas vous passer de manger, qui vont toucher aussi la nourriture. D'où le fondement des règles alimentaires qui nous paraissent parfois aberrantes du judaïsme, la cacheroute. D'accord ? Bien sûr, il y a des distinctions entre animaux. Et moi, quand je mange avec des amis juifs, ils essayent de m'expliquer, mais je les regarde au bout d'un moment en disant « Bon, d'accord, mais moi, ce n'est pas mon truc. » Bon, peu importe, peu importe. Le fondement, il est très fort. Le fondement, c'est de dire, chaque fois que vous mangez, et vous mangez de la viande, et dans des peuples de chasseurs, de toute façon, nomades, on mange de la viande. Hein. Chaque fois que vous mangez de la viande, vous saignez la bête et vous vous souvenez que c'est une concession à votre violence, que la vie appartient à Dieu et que donc vous n'avez pas le droit de toucher à l'homme. Ça va ? Voilà. Donc je crois que ces 9 premiers chapitres de la Genèse, avec beaucoup d'autres richesses, mettent en place, au fond, ce qui est fondamental dans la relation de Dieu à une humanité qui qui, bien qu'elle soit vouée à être bonne, est quand même violente. Ça marche ? Alors après, vous avez aussi l'histoire de la tour de Babel avec la régulation du rapport aux grands empires. La tour de Babel, c'est finalement un récit qui se dresse contre les ziggourats babyloniennes qui allaient jusqu'au ciel, qui voulaient au fond s'emparer du ciel, et les princes, ou les, je ne sais pas dire s'il faut dire les empereurs, les rois assyriens et babyloniens qui voulaient écraser tous les peuples et surtout leur imposer une seule langue. L'expression courante dans les langues de la Mésopotamie pour dire avoir le pouvoir et avoir un peuple qui obéit, un monde qui obéit parce qu'ils étaient puissants sur de grandes populations, c'est ils ont une seule langue et une seule voix. Ils parlent d'une seule voix, ils ont une seule langue. Et l'histoire de la tour de Babel vous dit non, Dieu ne veut pas. Dieu est pour la diversité des langues et pas pour le totalitarisme. Voilà. Donc il y a des leçons comme ça extrêmement fortes dans qui structurent au fond la pensée de la façon dont Israël se situe par rapport à Dieu dans ses premiers textes. Voilà, il faut les lire, les travailler, il y a beaucoup de choses à voir. Ça va ? J'avance. Nous avançons dans le temps, si on peut dire dans le temps. En tout cas, la Bible entre davantage, les récits bibliques suivent davantage l'histoire, si on veut, en mettant en scène, à partir du chapitre 12 de la Genèse, les récits, les légendes concernant des grands ancêtres qu'on a appelés des patriarches. C'est le même schéma qui va se reproduire plusieurs fois dans la Torah. À la fin du chapitre 11 de la Genèse, tout va mal. Parce qu'il y a bien eu une humanité recréée. Après Noé, il y a bien eu la gestion de la violence. Mais évidemment, dès qu'il y a deux hommes, ils s'entretuent, ça recommence à aller mal. Et on a, au fond, des générations qui sont en train de s'effilocher. Et cet Abraham qui va apparaître, il est un des restants d'un père qui s'est déplacé à travers la Mésopotamie et qui, au fond, alors qu'un de ses fils est mort, alors que son propre père est mort, va mourir là et il reste Abraham avec une femme stérile. Voilà. On a l'impression qu'on est au fond du trou et que les choses disparaissent. Et ça va être très souvent comme ça dans la Bible. À ce moment-là, apparaît au chapitre 12 le récit de l'appel de Dieu à Abraham et la promesse à Abraham. D'accord ? Ces récits vont mettre en scène des patriarches qui sont, au fond, des figures d'ancêtres pour les différentes populations israélites, pour les différentes tribus ou les différents groupes de tribus, qui sont en fait répartis plus ou moins sur la surface d'Israël. Ils ne viennent pas tous des mêmes coins. Abraham vient d'Hébron, c'est le patriarche d'Hébron. Alors, j'ai parlé de la Mésopotamie, j'y reviendrai. Mais en gros, en Israël, Abraham, sa mémoire, et c'est là où il établit d'ailleurs son sanctuaire, c'est là où il va être enterré, c'est Hébron. Isaac, c'est le sud, très proche du désert, vers Beersheba. Et Jacob, au contraire, le troisième, puisque c'est Abraham, Isaac, Jacob, est un patriarche du nord. Un des fils de Jacob, Joseph, va se retrouver en Égypte. Cette histoire des patriarches, elle est assez intéressante quand on essaye de regarder les moments. Alors là, je prends un autre point de vue. Quand est-ce qu'on s'est mis à raconter des histoires de patriarches ? Mais clairement, la première attestation se trouve, une attestation qui parle du patriarche Jacob, donc le troisième, le petit dernier, là. Et vous savez qu'Israël sera un autre nom de Jacob. Et elle se trouve autour de 730 dans le livre d'Osée, qui est aussi un prophète du royaume du Nord. Et qui dit « pique-pendre de Jacob ». Voilà. Jacob a servi pour une femme, Jacob a trompé son frère et son père. Enfin, Jacob, c'est vraiment pas du tout quelqu'un de recommandable, ce qui était d'ailleurs vrai, mais enfin, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a là une figure déjà tutélaire qui est combattue par des gens qui, eux, veulent promouvoir la figure de Moïse. Première attestation de Jacob, on est dans le Nord et on voit bien que Jacob est bien un père anciennement honoré dans la région du nord, à Bethel, à Sichem, dans le pays du nord du tout petit pays hein, d'Israël, la partie nordique. Voilà. Quant à Abraham et Isaac, on en entend parler très tardivement. Le plus important pour nous, c'est Abraham. Eh bien, Abraham, vous n'en entendez parler que pendant l'exil. Voilà, que pendant l'exil. Il apparaît dans quelques textes du second Isaïe, pendant l'exil. Donc, est-ce qu'on a, pendant l'exil, inventé un patriarche Abraham tout d'un coup, et Isaac encore un peu plus tard? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas comprendre les choses autrement? Certainement, il apparaît que depuis très longtemps, et ça se perd un peu dans la nuit des temps, il y avait des groupes d'Israël qui, au nord, se réclamaient de Jacob. Au sud, autour d'Hébron, c'était toute petite tribu, mais qui avait quand même des liens, hein, qui croyaient en un dieu qui allait devenir un dieu commun. Au sud, on se réclamait autour d'Hébron d'Abraham, peut-être même à l'extrême sud, on se réclamait d'Isaac. Lorsque les Juifs exilés, ceux qui étaient exilés à Babylone, qui ont donc passé environ 70 ans, ou 50 ans, suivant les décomptes, peu importe, plutôt 70 que 50, une ou deux générations, à Babylone, sont rentrés sur la terre d'Israël, parce que le roi perse, Cyrus, qui avait pris le pouvoir sur les Babyloniens, a autorisé le retour, on en reparlera. Ils ne sont pas tous rentrés. Certains sont rentrés, les plus fervents, les plus ardents, ceux qui vont être le fer de lance d'un judaïsme qui se constitue alors. Ceux qui sont rentrés, quand ils sont revenus, ben ils ont trouvé la place prise. Parce que bon, qui va à la chasse ou en exil, quand il revient, il y a des gens installés chez lui, évidemment. Et ils ont retrouvé sur place, notamment les paysans et le petit peuple que les Babyloniens, eux, n'avaient pas déporté. Les Babyloniens ne sont pas comme les Assyriens qui déportaient tout le monde. Les Babyloniens, ils enlevaient les élites, le roi, la cour, les grands, ceux qui parlent, les prophètes, les scribes, les lettrés. Voilà. Les lettrés ont coupé la tête du peuple et puis les autres, ils n'avaient qu'à rester sur place, ils travaillaient, payaient l'impôt, c'est parfait. Bon, les autres, ben, ils étaient restés sur place, ils n'avaient plus de tête, il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de scribes. Ben, ils avaient vécu, ils s'étaient mariés avec des femmes. Alors c'est toujours les femmes, c'est toujours la faute des femmes. Ils s'étaient mariés avec des femmes d'autres régions, d'autres religions, et ils avaient plus ou moins fait des cultes un peu syncrétistes, etc. Ceux qui rentrent veulent la place. Ils se réinstallent à Jérusalem, et il va y avoir des négociations très dures entre eux, des lettrés, ceux qui sont revenus sur de leurs droits, voilà, un nouvel exode, et on rentre chez nous, et le peuple du pays qui avait plus ou moins abandonné, gardé un peu les traditions, mais enfin voilà, c'était calme, 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 et très mêlé d'idolâtrie, si on peut dire, en tout cas, de culte syncrétisme. Et alors, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a eu vraiment une négociation intelligente, ce que nous, on a réinventé dans les groupes œcuméniques avec le consensus différencié. Chacun a raconté son histoire et on s'est mis d'accord pour dire qu'au fond, cette histoire pouvait faire un grand récit commun. Les gens de la terre avaient pour patriarche Abraham pour les uns, à Hébron, Isaac pour les autres. Il y en avait qui avaient ramené du nord un peu Jacob. Voilà, ils avaient ces récits. Ce n'était pas une généalogie. Hein. Chacun avait son patriarche. Les autres revenaient à un nouvel exode. On est les hommes de la loi, de l'alliance de Moïse. Comment est-ce qu'on va organiser ça? Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on refasse un peuple. Donc, ceux qui revenaient, qui étaient certainement les plus lettrés, les plus malins, on dit aux autres, écoutez, je raconte hein, l'histoire à ma manière, là je fais du mythos, mais ça a dû se passer quand même quelque chose comme ça, très différemment, mais quand même comme ça. On dit aux autres, écoutez, votre Abraham, oui, c'est votre patriarche, il est à Hébron, nous l'adoptons, c'est le nôtre, mais en réalité, si vous allez gratter dans son passé, Abraham, eh bien, je vais revenir en arrière. Ah, je vais trop vite, il ne veut plus. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas du tout que j'aille trop vite. Votre Abraham, en réalité, il vient d'Ur en Chaldée. Vous ne saviez pas ça? Ben, vous allez l'apprendre. Votre Abraham, il vient de très loin. Vous voyez? Où est Ur en Chaldée? Là-bas, en bas. Ici. Il vient de là, Abraham, avec son père, Haran. Il a remonté jusqu'à Haran en haut. Ils se sont arrêtés là. Et après, comme il était un grand nomade, ils sont descendus dans le pays et là, il s'est installé à Hébron. Et en fait, Abraham, il est revenu avec nous. nous avons ramené Abraham. Donc c'est aussi notre ancêtre à nous. C'est celui qui nous a précédés des milliers, peut-être 1000 ans avant ou 500 ans avant, en revenant d'Ouran Caldé. Et voilà qu'ils se sont mis à raconter une histoire complète d'Abraham, qui était à la fois le patriarche venu de Mésopotamie avec ceux qui revenaient d'exil, qui ont fait aussi le grand tour, hein, on ne passait pas par le désert, et le patriarche du lieu. Et on a construit ainsi une généalogie, Abraham, Isaac, Jacob. Si vous lisez bien les textes, vous verrez que on envoie toujours le fils, celui d'après, Isaac, rechercher une femme où ? Eh ben dans les pays du Nord, là-haut. Là où il y avait les exilés. Parce qu'il faut recréer des liens. Il faut qu'on soit tous bien d'accord. On est bien d'accord que ce sont nos ancêtres communs. C'est assez extraordinaire comme affaire. On se met d'accord alors qu'on n'est pas d'accord, alors qu'on veut prendre la place les uns des autres, pour vivre ensemble en se racontant une histoire commune avec le même ancêtre qui englobe tout le monde. Moi, je trouve ça fabuleux. Et du coup, on crée une généalogie des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Et le Jacob, dont le nom porte est Théophore, c'est Yaakov. Yah, c'est Yahvé, hein, c'est le Dieu unique d'Israël. Eh bien, il reçoit aussi à un moment donné, quand il passe le fleuve et qu'il vient se réconcilier avec son frère Ésaü, il reçoit aussi le nom de Israël, qu'on ne sait pas bien traduire. Il a combattu contre Dieu, il est fort contre Dieu. En tout cas, qui porte un autre nom de Dieu, elle. Et je vous avais parlé ce matin de la jonction des deux dieux. Et le patriarche Jacob, il porte deux noms, parce qu'au fond, il assure le fait que c'est bien le même Dieu, notre Dieu et ce Dieu, elle, ce grand Dieu des populations du Nord. Vous voyez comment dans la Bible se sont forgés par ce travail à travers peut-être pas les siècles, mais sûrement quand même au moins deux ou trois siècles, de ceux qui réfléchissaient sur leurs traditions, sur les traditions locales, sur la nécessité de vivre ensemble, un grand récit qui devient le récit national des patriarches. Ça marche, je vous scoop pas trop ? Comment ? Comment ? Non. Genèse, pas du tout dans l'Exode. Pas du tout dans l'Exode. Là, je suis le livre de la Genèse, qu'ils ont mis en premier, donc c'est-à-dire que c'est quand même, j'allais dire, le livre de la réconciliation fondamentale. Voilà, le livre de la réconciliation fondamentale. Ça marche ? À la fin du livre de la Genèse, vous avez l'histoire d'un quatrième patriarche dont on parle peu, qui est vraiment très intéressant. Un des fils de Jacob s'appelle Joseph. Jésus sera de la tribu de Judas, hein, pas de la tribu de Joseph, mais son père portera le nom de Joseph. Un des fils de Jacob s'appelle Joseph. Vous savez que c'est celui que ses frères, jaloux, parce qu'il est préféré par son père, il y a toute cette histoire, vendent, essayent de tuer, puis finalement, il y en a un qui se repent et on le vend à des marchands qui l'emmènent comme esclave en Égypte. Mais comme le Joseph était malin, en Égypte, il arrive à se faire une place au soleil, non seulement une place, mais il devient finalement le bras droit, l'intendant des trésors du Pharaon. Voilà, en se débrouillant pour prévoir les années de disette, les années, etc. Donc Joseph a une place très importante en Égypte, et comme il y a de la famine dans le petit pays d'Israël, et de toujours à toujours, les nomades, les éleveurs, quand il y a de la famine dans ce coin-là, ils descendent où ? En Égypte, ou de toute façon auprès du Nil. Ah ben, ça pousse, on peut pendant quelques temps nourrir un peu les troupeaux avant de repartir, parce qu'on devient un peu lourd pour les occupants, pour les habitants. Voilà. Donc il fait venir ses frères, et il y a un moment d'installation en Égypte, c'est-à-dire qu'il apparaît bien, c'est une des thèses les plus en vogue aujourd'hui sur la question, après on peut toujours discuter, qu'on a là un texte plus tardif qui vient de la diaspora égyptienne, qui est ancienne, hein, 5e, 4e siècle. Mais nous aussi, on fait partie de l'histoire. Nous aussi, on a un ancêtre qui vient de chez vous. Et c'est Joseph. Et le livre de Joseph est le plus beau livre de réconciliation dans la Bible. C'est le seul livre de l'Ancien Testament où le pardon se fait entre êtres humains. D'habitude, c'est toujours Dieu qui pardonne. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament aussi, Jésus dit, Père, pardonne-leur. Dans le livre de Joseph, on a le seul exemple d'un pardon durement arraché, mais réel, entre frères, entre hommes, entre groupes humains. Donc ce récit des patriarches, c'est vraiment un récit où on se met d'accord par des ancêtres communs ou de père en fils, qu'on est bien tous ensemble, on appartient au même peuple. Ça marche ? Alors, j'ai un peu dit ce matin, à la fin de la Genèse, tout va bien. À la fin de la Genèse, tout va bien, et on abandonne Joseph en Égypte. Ne m'en demandez pas à quel siècle. L'histoire, elle a été écrite vers le 4e, 5e siècle, mais le récit, lui, on le situe dans la nuit des temps, à l'époque des pharaons, des grands pharaons, peut-être 13e, 14e, j'en sais rien, personne n'en sait rien. D'ailleurs, il n'y a jamais un nom de pharaon qui apparaît. C'est le pharaon. Mais on ouvre le livre suivant, qui commence par le fait que, voilà, il est arrivé un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph et la situation va changer parce que ces gens qui viennent du Nord, qui sont des esclaves, des immigrés, souvent réduits en esclavage, ou qui viennent simplement parce qu'on ne sait pas bien en gros quels étaient ces groupes sémites qui venaient sans arrêt du Nord, qui se restaient quelque temps, qui se louaient ou qui étaient réduits quelque temps en esclavage, parce que quand même en Égypte, il a fallu construire des drôles de trucs, hein. Et il a fallu quand même du matériel humain pour construire d'abord les pyramides, ensuite les temples de la vallée des rois. Ils n'avaient ni grue, ni excavatrice, ni pelle. Hein. Tout se faisait à la main de l'homme. Donc ils ont dû en user quelques-unes de tribus plus ou moins venues d'ailleurs, réduites en esclavage, etc. Donc on a un moment où ces hommes venus d'ailleurs, qu'on va appeler les Hébreux, et il y avait peut-être des tribus qui s'appelaient des Apirous, on ne sait pas bien, des nomades, deviennent trop nombreux, ils deviennent un vrai danger, et le pharaon décide de les exterminer. Et donc, on a là un trou, à nouveau un trou dans l'histoire. Si on les extermine, où va la promesse de Dieu à Abraham, et cette promesse renouvelée tout au long de la Genèse, d'une terre et d'un peuple et d'une descendance. Alors, il y a bien quelques sages-femmes qui essayent de tromper le pharaon, qui essayent de garder les garçons. Le problème, c'est qu'on tuait les garçons et on mariait les filles. Et ça faisait disparaître un peuple, comme ça. Donc, ils essayent de garder quelques garçons, et c'est là le petit Moïse qui est sauvé dans son Moïse dans les eaux, puisque c'est le nom qu'on a fini par donner au berceau du bébé, qui est sauvé des eaux. Et à ce moment-là seulement, il est dit que Dieu se souvint de son peuple. Le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Et le récit de l'Exode va être un récit autour du personnage de Moïse d'abord, et même tout au long, mais un récit qui va, au fond, expliquer la liturgie vécue par Israël, par les gens d'Israël, par les familles, et au temple aussi, autour de la Pâque. C'est un grand récit explicatif de qu'est-ce qu'on vit quand on célèbre la Pâque. Et vous verrez que ça se présente sous cette forme. Chapitre 12 de l'Exode. Lorsque tu feras mémoire, voilà ce que tu feras et voilà ce que tu raconteras à tes enfants. Et on va donc raconter comment... Alors, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs façons dont ils sont sortis. C'est tantôt le pharaon qui les renvoie, tantôt ils partent en cachette, tantôt c'est des petits groupes et un ramassis, dit le livre des Nombres de pauvres gens. C'est tantôt toute une armée qui part. Plein de traditions qui sont mélangées, touillées, rassemblées ensemble. Le grand récit d'une sortie d'Égypte dont la mémoire collective d'Israël fait au fond la fondation du peuple qui va recevoir la loi de Dieu. On ne nie pas les patriarches qui viennent avant, ils sont là. Mais désormais, on se constitue comme peuple autour du personnage de Moïse et la figure de Moïse qui donne la loi. Et c'est cette figure qui va être, au fond, la colonne vertébrale du judaïsme tel qu'il se constitue en exil et au retour d'exil, même s'il date de plus ancien. Oui ? Vous êtes perdus après les patriarches. J'ai quitté les patriarches à la fin du livre de la Genèse. et j'ai ouvert le livre de l'Exode. Ça marche ? Ah, mais n'essayez pas de vous retrouver là-dedans. Après, si vous voulez savoir, si vous voulez savoir, c'est dans l'histoire d'Israël, à la page 1. Le petit dossier, l'histoire d'Israël, et la page 1, vous avez la sortie d'Égypte. Ça marche ? Voilà. Mais laissez tomber ça pour le moment, parce que je regroupe plusieurs choses qui sont ensuite séparées. Bon, je vais quand même rester un moment autour de cette sortie d'Égypte et du personnage de Moïse, parce que tout ça, c'est effectivement de la légende, mais la différence de la légende avec le récit mythique, c'est qu'on ne construit pas un récit pour raconter structurellement ce qui est. La légende, et c'est déjà vrai des patriarches, c'est un récit qui raconte le passé en s'appuyant toujours sur un fait réel concret. Ça peut être un nom, c'est souvent un sanctuaire, souvent un lieu, un nom de père. C'est souvent une loi qui vient de loin et qu'on a... Voilà. La légende, elle brode, évidemment qu'elle brode, et elle reconstitue à partir d'un élément fondamental du passé. Ça marche ? C'est plus seulement structurellement ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu des événements, Abraham, Isaac, Jacob, c'est des noms de patriarches qui avaient été liés à des sanctuaires dans les très 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 anciennes tribus d'Israël. Ça marche ? Après, on raconte leur histoire, on fait que l'un est le fils de l'autre, etc. Mais ça repose toujours sur un élément. Voilà. L'histoire de Moïse et de la sortie d'Égypte, évidemment, repose sur quelque chose. Évidemment. À partir de là, les archéologues, les historiens, les spécialistes de l'Égypte, les spécialistes de la Bible se disputent depuis au moins 2 ou 3 siècles. Et il y a des hypothèses dans tous les sens. Voilà. On a placé ça, parce qu'on a voulu absolument le placer quelque part dans l'histoire. On ne peut pas, de même qu'Abraham, il n'est pas au 19e siècle, on n'en sait rien, les grands nomades, il y en a toujours eu. Des sémites, c'est-à-dire des gens qui venaient en dehors de l'Égypte, du nord et du nord-est. Il y en a toujours eu en Égypte, puisqu'il y a eu au XVIIe siècle la domination des Hyksos, qui ont dominé toute la basse Égypte pendant 2 siècles, et qui étaient des Sémites. Donc, après, ils ont disparu. Il y en a toujours eu. Pour construire ces monuments incroyables sur des siècles en Égypte, il a fallu de la main-d'œuvre. Il y a toujours eu des esclaves ou des populations qui, mourant de faim, venaient vivre là et qu'on récupérait. Comme pseudo-esclaves, en tout cas, comme gens qu'on pouvait faire travailler. Voilà, il y en a toujours eu. Donc, comment dater ? Tout ça repose quand même, montre quand même qu'il y a des éléments de l'histoire sur lesquels la tradition d'Israël, la mémoire d'Israël a pu broder. Elle n'a pas brodé sur rien. Ça, c'est sûr. Voilà. On a un certain nombre de choses. On a, par exemple, des frises dans les tombeaux des rois en Égypte, des frises où vous avez, c'est très intéressant, des peuples qui apportent des richesses au pharaon. Et parmi ces peuples, vous en voyez qu'ils sont différents des autres parce qu'au lieu d'avoir des cheveux plats, ils ont des cheveux frisés. Au lieu d'être un berbe, ils ont de la barbe. Et ils ont un pagne au lieu d'avoir une robe. Et cela, ça représente ces populations sémites qui viennent apporter des offrandes, des richesses au pharaon mort, puisqu'on est dans une tombe. Ça va ? On a des traces comme ça importantes. On a aussi, mais vous savez ça mieux que moi, il suffit d'aller au Louvre, on a aussi des frises comme ça où vous les avez en train de construire, de faire des briques et de construire des monuments. Ah, c'est de la main-d'œuvre. Alors, les grands moments de construction, il y en a eu dans le passé, évidemment. Il y en a autour du 13e, du 12e siècle. Il y en a eu un peu à toutes les époques. On a une stèle importante qui s'appelle la stèle de Ménerpta. C'est un nom de pharaon entre un Ramsès. Il y a eu un Ménerpta, bon. Qui date, alors on ne sait pas, il y a des gens qui disent 1200 avant Jésus-Christ, il y a des gens qui disent 1130. Je n'en sais rien, parce que de toute façon, personne n'est d'accord. C'est dans ces eaux-là, c'est sûr. Et puis, à 100 ans près, on s'en moque. Et sur cette stèle apparaît pour la première fois le nom d'Israël. Israël est vaincu, est anéanti et a perdu sa semence. Récit de combat, le pharaon a écrasé, parmi d'autres groupes, un petit groupe qui s'appelle Israël. C'est la première attestation du nom. Et dont il dit qu'il l'a anéanti. Alors, il l'a anéanti. Anéanti. Voilà, il a gagné. Et ça représente une victoire qui aurait eu lieu à la limite de l'Égypte et du monde palestinien, du monde de Canaan, puisque c'était Canaan à l'époque. Ça va ? Donc là, on a une trace de combat à un moment donné où on voit bien qu'il y a une tension telle que ça va à la guerre entre le pharaon et des groupes qui s'appellent Israël, qui ont été défaits en l'occurrence. Il y a aussi des récits, alors je ne vous les ai pas donnés, mais on découvre de plus en plus des récits égyptiens et dans les annales égyptiennes qui racontent le fait que tel ou tel officier royal en Égypte, ayant perdu du grade, disons, étant rétrogradé, s'est révolté, il s'appelle Béra, et a entraîné avec lui dans la révolte un certain nombre d'esclaves. Et ils se sont révoltés contre le pharaon, et comme ils étaient battus, ils se seraient enfuis. Alors on dit, ça y est, on y est là, Béra, c'est Moïse, ça y est, parce que Moïse est un peu égyptien, on les a. En fait, non, parce qu'il est rattrapé, il est tué, et la révolte est matée. On a d'autres récits, là encore, de personnages égyptiens un peu haut placés qui, ayant comploté contre le pharaon, s'enfuient et s'enfuient vers le sud en traversant les lacs le long de la mer. Voilà, il y a des récits comme ça. Rien ne correspond exactement. Rien ne correspond exactement et pour cause. Mais on a effectivement de quoi, ce sur quoi la mémoire collective s'est appuyée pour créer tous ces récits. On a enfin le nom de Moïse, qui est un nom égyptien. Le nom de Moïse, c'est une racine MSS que vous avez dans Toutmès, dans Ramsès, hein, qu'on a dans les noms des pharaons égyptiens. Et ça veut dire fils d'eux. Alors Moïse, on n'a pas le début. Il est fils de on ne sait pas qui. J'ai fait exprès. Mais c'est un nom égyptien. Maintenant, vous réfléchissez. Même si il y a eu des moments où l'Égypte a été considérée cause de la diaspora juive par Israël comme un pays de refuge, et il y a toujours une tentation de se réfugier en Égypte. Même si l'Égypte, à un moment donné, a été considérée comme un pays plutôt favorable, encore que, ça serait quand même bizarre que les Israélites aient inventé un nom égyptien pour représenter celui qui incarne, au fond, le peuple lui-même et la loi donnée par Dieu au peuple. C'est quand même étrange d'aller chercher ça. Ce qui veut dire, et ça je crois que tous les biblistes sont d'accord, que ce nom n'est pas inventé. Il vient de quelque part. Et le personnage de Moïse, on le voit bien, c'est très compliqué. On vous dit bien au début du texte, parce que ça s'est rajouté, qu'il est de la tribu de Lévi, donc on va le rattacher à une tribu sacerdotale, etc. Mais ensuite on s'aperçoit qu'il est élevé où ? Par la fille du pharaon. Chez le pharaon. Et ce Moïse, il a une bonne partie égyptienne, une bonne partie, on voit bien, il essaye de séparer ses frères qui sont... Enfin, d'aider un de ses frères qui est tué par un Égyptien, après de séparer ses frères qui se battent entre eux. Bon, il est entre deux eaux, Moïse, c'est le cas de le dire. Donc on a là une figure dont le souvenir est resté très fortement attaché à la constitution même autour de la loi de Dieu et du Dieu unique peuple d'Israël, Moïse, dont on ne sait pas historiquement ce qu'il a été. On n'a aucune trace historique ancienne, à part ce nom et ces récits qui ne correspondent pas, du personnage de Moïse. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Moi, je suis en train de vous montrer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. La légende, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Après, le feu, il peut être tout petit, il peut être lointain, on ne sait pas où le situer dans l'histoire. Ça marche ? Ce que ça va nous raconter, ça, je regarde l'heure, pour ne pas vous épuiser, ce que ça va nous raconter, ça, c'est que le peuple s'est constitué, au fond, dans un récit d'exode, voilà, dans un récit de sortie, et qu'on a un peuple qui, au fond, est présenté dans son fondement même comme un peuple en marche entre un lieu d'exil et un lieu promis, mais qui reste... Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque Moïse n'entre pas dans la terre promise, qui reste un peuple en marche, en exode. Et un peuple qui va traverser le désert avec évidemment le nombre symbolique de 40 ans. Vous allez me dire pourquoi 40 ans, j'en sais rien. En fait, si, je sais. Parce que 40 ans, c'est la disparition d'une génération à l'époque. Voilà. Et que la génération considérée comme la génération du désert qui s'est révoltée contre Dieu, puisqu'ils ont fini par dire à Dieu, ça va bien, ces histoires. Nous, on n'en peut plus de mourir dans le désert. On était beaucoup mieux en Égypte. Au moins, il y avait de la soupe chaude et des choses à manger et à boire. La génération qui s'est révoltée contre Dieu n'entrera pas dans la terre promise. Et donc, il faut au moins 40 ans pour assurer une vraie succession des générations. Je ne vois pas bien d'autres explications. Mais évidemment, le nombre va rester très fortement symbolique dans l'histoire d'Israël et jusque dans le Nouveau Testament et jusque dans notre pratique chrétienne où le carême est censé durer 40 jours, si je ne me trompe. Donc voilà, ça remonte loin. Hein. Alors, traversée du désert avec tout ce que le désert représente, la terre de désert, la terre de manque absolu, de faim et de soif, même si c'est des steppes, c'est quand même pas facile pour y vivre. La terre où donc on doit tout attendre de Dieu, et donc la terre où on se révolte contre Dieu. Et là, on a un texte, je ne vous en ai pas parlé ni dans le PowerPoint, ni dans le papier, mais maintenant j'insiste là-dessus. Parce qu'on a un texte que moi je crois très très important, et dont on ne fait jamais assez cas. C'est Exode 16, la première révolte. Tout le monde connaît la révolte du veau d'or. Mais on ne s'attarde jamais assez à la première révolte dans le désert, en Exode 16, au lieu dit Massa et Meriba, où le peuple se révolte contre Dieu et contre Moïse, en disant « on va mourir de faim, on va mourir de soif. Si tu étais vraiment notre Dieu, tu nous t'occuperais de nous. Voilà. » Alors tu n'avais qu'à nous laisser en Égypte, si c'était ça le deal. Et Moïse frappe le rocher et de l'eau va jaillir. Mais, le mot de Massa en hébreu, ça se traduit par peirasmos en grec, excusez-moi pour le petit détour linguistique, et ça signifie épreuve en français. Ça signifie épreuve. Et le texte le dit clairement, et on a la loi correspondante en Deutéronome 6,16, que Jésus va citer au diable qui vient le mettre à l'épreuve. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il ne s'agit pas d'une épreuve pour le peuple. Bien sûr qu'il s'agit d'une épreuve pour le peuple. Ce n'est pas drôle de vivre dans le désert. Mais l'épreuve, ça veut dire que c'est le lieu, parce que c'est un lieu, où on se défie de Dieu et où on met Dieu à l'épreuve en lui disant « Prouve que tu es Dieu ». Et au fond, lorsque nous traduisons et on se bat autour des traductions de notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça m'énerve au dernier degré, cette tentation. On est tenté par un morceau de chocolat ou par je ne sais pas quoi, ou d'aller au cinéma alors qu'on ferait mieux de travailler. Non, c'est ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Littéralement, ça dit ne nous fais pas arriver à Massa, c'est-à-dire au lieu où nous allons douter de toi. L'épreuve, ça consiste à douter de Dieu et à lui dire tu te manifestes, sinon on n'y croit pas. C'est exactement ça, les tentations, que moi j'appelle les épreuves, de Jésus dans le désert. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, allez, convoque Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Dieu n'aura qu'à envoyer tes anges. Si tu es fils de Dieu, prends le pouvoir sur toutes les terres de la terre. Si tu es fils de Dieu, mets Dieu à l'épreuve et vérifie. Et Jésus répond, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Et là, dans le désert, il y a cette affirmation fondamentale. On ne met pas Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire que si on met Dieu à l'épreuve, c'est qu'on a perdu toute confiance en Dieu. Et que Dieu ne va pas se mettre à votre botte. Autrement, on ne met pas la main sur Dieu. On ne met pas la main sur Dieu. Dieu demande effectivement la confiance et la foi. Ça, je crois que c'est fondamental. Et cette confiance, quand elle répond effectivement à l'appel de Dieu, elle se concrétise dans une alliance, et il va y avoir des alliances tout au long de l'Écriture. La première était avec Noé, et déjà Abraham avait eu la promesse de Dieu répondue par des alliances. Alors avec Abraham, avec Noé, avec Moïse, il y en aura d'autres dans l'Écriture, une alliance où il y a une espèce de, pas de pacte, de contrat qui n'est pas bilatéral. Et j'en reparlerai des alliances tout à l'heure, qui n'est pas bilatéral, qui est toujours à l'initiative de Dieu. Comme un suzerain envers un vassal, mais qui suppose quand même la réponse du peuple. Dieu protège, mais en échange, il faut observer sa loi. Ça, le fondement de l'alliance au sens strict, celle que conçoit le mieux le Deutéronome, c'est-à-dire c'est au fond le modèle à l'époque, et il est très présent dans les peuples environnants chez les Hittites, du suzerain et de son vassal. Sauf que là, Dieu, qui a l'initiative, donne aussi complètement la vie au peuple, mais en retour, le peuple doit obéir à sa loi. Et donc cette loi qui se cherche à travers divers textes. Ça va jusque-là ? Je peux laisser le... Oui ? M-A-2-S-A. De toute façon, c'est de l'hébreu. Donc ça ne s'écrit pas en lettres latines. Ça s'écrit M-A-2-S-A. Vous le retrouvez dans les Bibles, hein, Exode 16. Massa et Meriba, c'est épreuve et querelle. C'est le peuple qui met Dieu à l'épreuve et qui... querelle. Porte querelle contre Dieu. Bon, on avance et vous avez maintenant les récits d'entrée dans la terre promise. On a enterré Moïse. C'est très intéressant, Moïse. On ne sait pas qui l'a enterré. À la fin du Deutéronome, au chapitre 34, Moïse meurt. Et il y a un texte assez compliqué parce qu'on dit que Moïse meurt et il l'enterra. Il l'enterra et nul ne sait où se trouve son tombeau. Il l'enterra. Alors, les Juifs eux-mêmes disent que, évidemment, il, c'est Dieu. Moïse, c'est Dieu qui l'a enterré. Nul ne sait où se trouve son tombeau. Et évidemment, ce que pense la tradition juive, ce que reprendra le Nouveau Testament, c'est que Moïse n'est pas mort. Moïse, comme le prophète Élie, qui va être enlevé dans un tourbillon auprès de Dieu, n'est pas mort. Et d'ailleurs, dans les récits de la transfiguration, vous allez retrouver à gauche et à droite de Jésus la loi et les prophètes, Moïse et Élie, qui ne sont pas morts et qui viennent le présenter comme, au fond, l'aboutissement de ce qu'ils voulaient accomplir par la loi de Dieu. Ça marche, ça ? Légende. Bon, on va entrer donc dans la terre promise sans Moïse, avec son successeur Josué, et cette période de l'installation de quelques tribus, pas de tous, hein, dans la terre, est la période la plus compliquée du point de vue historique. Je vous l'ai dit, la plus en pseudo-contradiction avec l'archéologie. Est-ce qu'ils ont pris Jéricho ou est-ce qu'ils ont pris une ville qui était déjà détruite ? Est-ce qu'ils ont pris Haï ? Est-ce qu'ils ont pris la ruine ? Comment ils sont entrés ? Est-ce qu'ils sont entrés par le nord, ce qui semble, d'après le passage du Jourdain ? Ou est-ce qu'ils se sont infiltrés par le sud ? C'est une conquête ou c'est une infiltration, en gros. Ce que dit Mario Liverani, et je m'appuie sur lui parce qu'il essaye de faire le tour et que de toute façon, il est bien meilleur que moi, c'est qu'on n'a pas de conquête, qu'on a une installation progressive, un peu comme les barbares dans l'Empire romain. Il y avait longtemps qu'ils étaient là. Alors, c'était des tout petits groupes. Hein. Une installation progressive dans un moment où les rois cananéens qui avaient leur ville sur des pitons, ça on les a retrouvés, qui payaient tribut à l'Égypte, mais qui avaient une population assez paysanne, relativement riche, qui en tout cas leur fournissait de quoi payer à l'Égypte, sont entrés dans une période de décadence parce que sécheresse, parce que la population ne peut plus payer, parce qu'il y a baisse démographique et parce que, ben, un à un, ils sont obligés de dire au pharaon qu'ils ne payent plus et donc ils disparaissent. Donc dans une période qui correspond au début de l'âge du fer, ou au milieu de l'âge du fer, je ne sais plus quel, on sait le dater, moi je ne sais pas. Et que, du coup, des populations nomades, soit qu'elles soient venues du nord, soit qu'elles aient déjà été là, soit qu'elles soient arrivées du sud, ont pu s'installer et, au fond, se mettre à vivre là. Parmi ces populations nomades, un certain nombre de groupes, il y en avait qui étaient déjà là, il y en avait qui sont arrivés probablement d'Égypte et en traversant le Jourdain, se sont reconnus entre eux comme étant les tribus, après la légende dira 12, mais ils sont déjà 12 dans le livre de Déborah, les tribus se référant au même Dieu unique d'Israël, ça va ? Pas unique, mais leur Dieu qui est plus fort que tous les autres dieux. Le Dieu unique, ça viendra longtemps après. Et vous avez donc ceci raconté comme une épopée nationale dans le livre de Josué, la conquête, et comme une installation des différentes tribus qui se battent entre elles et qui se réconcilient avec, quand ça va mal, l'appel à un juge, c'est-à-dire à un personnage qui était capable de mobiliser les uns et les autres pour soit les réconcilier, soit faire front contre l'ennemi. Il y a plusieurs histoires de juges avec pas mal de légendes, hein, Samson, etc. En tout cas, c'est une période où, antérieure à la première, au premier établissement de la royauté, où les différentes tribus d'Israël étaient juxtaposées et se soutenaient de temps en temps. Mais le cantique de Déborah appelle à se mobiliser contre l'ennemi philistin qu'on va voir arriver et dénonce avec violence ceux qui sont restés tranquilles sous leurs amandiers ou sous leurs figuiers, qui n'ont pas voulu se battre, en disant que c'était des lâches et que ce n'était pas des frères. Voilà, donc ce n'était pas si clair que ça. Le livre des Juges se termine par des histoires épouvantables. Si vous lisez le livre des Juges, il y a des histoires affreuses. Peu importe. Il se termine par la répétition d'une phrase qui est assez intéressante. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Si vous l'entendez bien, la phrase, elle peut s'entendre, se comprendre de deux façons. Il n'y avait pas de roi en Israël et on avait une paix royale, si je peux me permettre. Ou bien, il n'y avait pas de roi en Israël et c'était le bazar. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et on est certainement déjà entré dans ce qui va suivre, c'est-à-dire la période royale avec l'émergence d'une royauté véritablement qui essaye d'unifier en Israël. Quelque chose se cherche et se discute et est relu après comme finalement, est-ce que ce n'était pas beaucoup mieux à cette époque-là? Et finalement, ce n'était pas si bien. Ça va? Nous entrons dans la période... On va bientôt faire une pause. Je vais juste entrer là et après on va faire une pause. Nous entrons dans la période royale et j'ai écrit « Nous entrons dans l'histoire ». Pourquoi dans l'histoire? Parce que selon la stricte définition des historiens aujourd'hui, il n'y a histoire que lorsqu'il y a traces écrites. Or, il y a bien des traces écrites en Égypte. Vous avez vu la stèle de Menerpta. Il y a des traces écrites en Assyrie, puisqu'on a le prisme avec la loi de Hammurabi qui remonte au XVIIe ou au XIXe siècle. Mais en Israël, on n'a aucune trace écrite avant longtemps. Ça va être à partir du IXe siècle que vont apparaître les premières traces écrites. Donc, on entre dans l'histoire parce que va apparaître l'écriture. Ça marche? Aussi parce que, avec l'invasion d'un certain nombre de peuples, pas des peuples qui viennent par la mer, les Phéniciens venaient par la mer, mais là c'est des espèces de pillards, un peu comme les Normands au Moyen-Âge. C'est des gars qui arrivaient avec leurs bateaux, faisaient une razzia et repartaient en vitesse. Voilà. Donc, les Philistins, c'est ces gens qui venaient faire des razzias partout, et s'enfoncer assez loin dans le pays. Or, ceux-là, ils ont été très destructeurs pour la bonne raison qu'ils avaient le fer, déjà, on est au début de l'âge du fer, alors que les malheureux israélites, ils n'avaient que du bronze. Et si vous tapez avec une épée de fer contre un bouclier en bronze, ça pète. Le bronze, ça casse. Le fer, c'est dur. D'où la supériorité des Philistins, dont l'emblème est le géant Goliath. Cette espèce d'énorme géant invincible. Ben, c'était quoi le géant Goliath? C'était ces troupes philistines qui faisaient peur et qui étaient invincibles parce qu'elles étaient bien mieux armées que les malheureuses tribus d'Israël. Ça marche? Donc ils ont amené le fer avec eux, parce qu'après les autres ont compris qu'il fallait qu'ils utilisent, qu'ils s'arment aussi comme ça. Ils ont amené le fer avec eux, et est-ce d'autres, plutôt des marchands phéniciens, mais eux aussi. Ils ont amené l'écriture. Et donc, on entre dans l'histoire avec ces récits qui sont reconstitués, repris dans les livres de Samuel et des rois, à partir de 1 Samuel 8, qui sont les récits de l'ascension. L'ascension, oui, c'était tout petit groupe, mais quand même. Monter sur le trône pour rassembler les tribus d'Israël, d'abord de Saül, ensuite de David et de la dynastie davidique avec Salomon. Ça marche ? On en entendra parler de David. On ne sait rien de David et de Salomon. Rien au Xe siècle. David est situé en l'an 1000. On entend parler pour la première fois de David sur une stèle qu'on a trouvé à Dan, ça s'écrit aussi parfois Daneux avec un E, un peu importe, qu'on a trouvé à Dan, je ne sais pas si je vous l'ai mise, la stèle de Dan, oui, la voilà, et sur laquelle il y a, on trouve Beth Dawid, la maison de David. Ah, j'ai lutté contre la maison de David. On la date au mieux de 840. Ça veut dire quelque chose comme un siècle et demi après, la maison de David, c'était la dynastie de David, qui d'ailleurs semble bien s'être poursuivie sans heurts sur 4 siècles. Ça marche, mais vous voyez que c'est tardif ce qu'on sait. On ne sait pas grand-chose de ces premiers rois. Les récits vont nous montrer un David extraordinairement, c'est très intéressant David, extraordinairement mêlé. En fait, c'était un chef de bande génial, c'est tout. Un gars qui était roublard, qui était capable de tout, qui va se vendre aux Philistins parce qu'il est poursuivi par le roi précédent. Enfin, celui qui essaye d'être roi précédent, Saül, il va se vendre aux Philistins. Donc, il trahit les siens et après, il trahit les Philistins puisqu'il dit aux Philistins, donnez-moi des troupes, je vais écraser les Israélites. Et en fait, il se retourne contre les villes qui ont déjà pris le parti des Philistins. Donc, en gros, David, c'est le gars qui trahit tout le monde. Mais qui, comme il est malin, arrive à rassembler autour de lui le plus de monde possible, à rassembler les gens du sud, les gens du nord, qui étaient déjà très séparés, et à prendre une ville, qui va être la ville centrale, une capitale, Jérusalem. La force de David, c'est que sa dynastie et sa capitale ont duré 4 siècles. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut dire. Après, il y a eu un Salomon aussi, qui passe pour le roi sage par excellence. David, c'est le roi chanteur. On lui attribue les psaumes. Salomon, le roi sage. Bon. Tout ça s'appuie pendant au moins 2 siècles sur des légendes royales et petit à petit sur des stèles et sur des annales qui vont petit à petit s'écrire, mais plus tard. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a le souvenir d'un probablement d'échec de la royauté, Saül est le roi qui échoue, d'une réussite avec cette maison de David, on va considérer que David est l'élu de Dieu, et d'une ère de prospérité avec le premier successeur de David, un Salomon, probablement, qui, parce que à la fois l'Égypte au sud et la Syrie au nord étaient en période d'affaiblissement, a pu bénéficier d'un moment de prospérité, donc la grandeur de Salomon. En fait, la période royale est racontée dès le début comme quelque chose de très ambigu dans la compréhension qu'en ont ce qui raconte l'histoire d'Israël. À la fois, on va valoriser David et l'alliance de Dieu avec David et la dynastie davidique. À la fois, quand on raconte ces histoires, on est en exil ou au retour et il n'y a plus de roi. Et c'est à peu près fini. C'est fini pour la royauté en Israël. Et donc, on va sans arrêt faire peser sur cette période royale qui s'étend 2 siècles pour le royaume du Nord, on va le voir 4 siècles pour le Sud. On va faire sans arrêt peser dessus, mais finalement, est-ce qu'on a bien fait d'avoir un roi comme les autres ? Avec l'idée qui chantait dans les psaumes, Dieu seul est roi. Dieu vient en roi lorsqu'il n'y a pas usurpation. Dès le début, avant même que l'histoire du premier roi qui va échouer commence, dans le livre de Samuel au chapitre 8, on a ce texte très intéressant où les anciens d'Israël viennent voir Samuel et lui disent « Donne-nous donc un roi pour nous juger comme tous les autres. On veut être comme les autres. » Et Samuel, furieux, se retourne vers Dieu et dit à Dieu, c'est pas possible. C'est toi seul qui es roi. Et tu vois ce qui... En fait, peut-être qu'il était jaloux, il voulait que ce soit ses fils, mais ça, c'est la petite histoire. C'est toi seul qui es roi et tu vois qu'ils veulent se nommer un roi. Et Dieu leur dit, ils l'ont demandé, donne-leur un roi, obéis. Donne-leur un roi, obéis-leur. Alors Samuel va voir les anciens, leur dit, voilà, vous allez vous nommer un roi, ou on va trouver un roi, c'est très compliqué. Et voilà ce qui va vous arriver. Voilà comment gouvernera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à sa cavalerie. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et le reste. Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliviers, les meilleurs. Il lèvera la dîme sur vos grains et sur vos vignes. Vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous serez choisi. Le Seigneur dit alors à Samuel, écoute leur voix. Ce n'est pas moi, pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Donc il y a à la fois dans la Bible cette magnification, exaltation du personnage de David, de la dynastie davidique, qui a effectivement régné 4 siècles. Puis David, c'est quand même Jésus est fils de David, c'est pas rien. Et la mise en cause tout de suite, un roi, c'est celui qui va vous opprimer, qui va vous rendre esclave et pas libre. Et au fond, en prenant un roi, vous rejetez Dieu, roi unique. Vous voyez le problème ? Il est posé. Il est posé consciemment. Et ces textes n'ont pas été gommés à la période royale où, au contraire, David n'a pas été démoli et chargé après, quand les rois ont disparu. On a tout gardé. On a tout gardé des traditions, les traditions positives, les traditions négatives. Le débat est sur la table et la Bible, elle ouvre sans arrêt le débat. Ça va ? Je vous écoute et on fait une petite pause. Vous avez des questions ? Non. Vous êtes épuisés. C'est l'heure du café. Allez, allez prendre un petit café, après on termine.